Qui est le diable que rencontre Jésus? Le diable, diable, c'est un mot qui vient du grec, qui vient du verbe diaballo, jeter entre, diviser. C'est celui qui intervient pour mettre un obstacle à la communion. Il est là pour empêcher la communion. À l'origine, il n'en était pas ainsi, il a été créé un ange bon, porteur de lumière, on le connaît aussi sous ce nom de Lucifer. Mais les anges, êtres spirituels, ont à se déterminer au moment de leur création, pour Dieu, selon Dieu ou contre Dieu, pour entrer dans la plénitude de son amour ou bien la refuser. De façon allégorique, le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel nous parle de lui à travers l'image d'un roi de Tyr mystérieux dont il est dit qu'il s'enorgueillit de sa beauté. Il avait grande sagesse, grande beauté, grande intelligence, mais il s'est enorgueilli de sa beauté. Et il refuse alors de rentrer dans le mouvement de l'amour de Dieu qui nous sera révélé par le Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et voilà que le Verbe de Dieu qui s'est fait chair donnera sa vie pour des hommes. Lui qui est de condition divine, il ne retiendra pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il prit la condition d'esclave jusqu'à la mort sur la croix. Cette façon d'aimer, le diable l'a refusé. Celui qui est devenu le diable l'a refusé. Et il est depuis celui qui est le Satan, c'est-à-dire en hébreu l'adversaire, l'accusateur. Et sa détermination contre Dieu est sans retour. Ce n'est pas qu'il y aurait un défaut de la miséricorde divine, car Dieu ne change pas. Dieu est amour de toujours à toujours, mais par un endurcissement choisi définitivement de la part de l'ange déchu. Et il apparaît alors dans l'histoire comme celui qui intervient pour mettre en doute la qualité de l'amour que Dieu nous porte. Souvenez-vous, au jardin de la Genèse, au chapitre 3, il s'approche de l'homme et de la femme et leur dit, mais ce fruit-là qu'on vous a interdit, on vous a dit que vous mourrez, pas du tout, vous ne mourrez pas. Au contraire, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, vous serez comme Dieu. Voilà que Dieu apparaît dans sa bouche comme un obstacle entre mon plus grand bien et moi. Et c'est ainsi qu'il essaie de nous détourner du lien à Dieu et de notre vocation à l'amour avec Dieu. Il prétend prendre soin de l'homme, un peu comme un père. Mais il est un faux père. Voyez comment il s'adresse à Jésus. Jésus a faim, et d'une certaine manière, il l'invite à prendre soin de lui, que ses pierres deviennent du pain. Tu as besoin de manger, tu es affamé. Prends soin de toi. N'est-ce pas un conseil avisé? Et ce conseil a pour but de détourner l'homme d'une autre nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors il tente une autre avancée. Je te présente tous les royaumes de la terre. Tu as une mission sur cette terre. Ce serait quand même plus simple si tous pouvaient entendre ta parole. Moi, en un instant, je te donne pouvoir sur toute la terre. N'est-ce pas un grand service que je rends à la mission que tu as pour les autres? Cela vaut le coup pour eux, non? Si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai. Et voilà qu'il veut nous couper de celui qui est la source véritable, du Père. Il veut nous lier à une source qui, elle, n'est pas inépuisable et qui donc sera asséchée. Celui qui lui fait confiance se retrouvera bien vite sans rien. Il va même tenter, puisque le Christ ne consent pas à son invitation, il va tenter de lui parler de la confiance en Dieu. « tu as confiance dans la parole de Dieu. Eh bien, dans l'Écriture, il est dit, si tu te jettes, il enverra ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu as confiance dans la parole de Dieu, alors vis-la pleinement. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. On peut se demander, mais pourquoi cela ? Pourquoi ne pas mettre le Seigneur notre Dieu à l'épreuve ? Parce que le Seigneur notre Dieu nous a montré déjà les signes de sa fidélité. Il nous a donné les signes de son alliance. Et vous savez bien qu'un amour ne grandit que dans la confiance. Si à chaque instant on refuse la confiance en demandant « Donne-moi une preuve, donne-moi une preuve, donne-moi une preuve », jamais cet amour ne peut grandir. Un amour vit de l'histoire et de la confiance acquise. Et le tentateur propose de vivre la parole de Dieu, mais en renonçant à la confiance véritable, celle qui permet à l'amour de se déployer. Et voilà que Jésus, à chaque fois, repousse la tentation. Mais pourquoi est-ce que cet épisode est important ? Et pourquoi est-ce que cet épisode est important comme cela au début du ministère public de Jésus ? Parce que Jésus vient nous offrir un nouveau commencement. Au livre de la Genèse, nous avions ce commencement vicié. L'homme et la femme avaient consenti, avaient cru en la parole du serpent plutôt qu'en la parole de Dieu. Et nous ont transmis un patrimoine spirituel vicié, ce qu'on appelle le péché originel, cette blessure profonde de notre capacité d'aimer. Le Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, vient nous offrir un nouveau commencement pour que nous ne soyons pas enfermés dans cette malédiction, on pourrait dire, du péché originel, mais que nous puissions être ancrés dans une humanité sainte, une humanité qui a fait confiance, une humanité qui est entrée pleinement dans l'alliance avec Dieu. En lui, nous sommes vainqueurs du tentateur. En lui, nous recevons ce commencement pour mettre nos pas dans ses pas et accomplir notre vocation à l'amour. Et c'est vrai, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et surtout pas résister ou vaincre le tentateur sans lui. Le tentateur demeure une puissance angélique et son intelligence est largement plus grande que l'intelligence humaine, même la plus brillante. Il faut la lumière et la grâce de Dieu pour qu'il soit envoyé en déroute. Alors se pose la question, en ce début de carême, Jésus nous offre un commencement nouveau. Mais comment unir notre vie à la sienne ? Pour que nous ne passions pas à côté de ce commencement, pour que ce commencement puisse devenir pierre de fondation dans notre vie, aujourd'hui, au début de ce carême. Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous donne un indice. On lit ceci, je crois que c'est au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, « Les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu. » Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Comment cela peut-il se vivre aujourd'hui ? Eh bien, nous avons cette grâce particulière à la paroisse de pouvoir vivre l'adoration permanente du lundi soir jusqu'au vendredi soir. Jour et nuit, il nous est possible de prendre un temps devant le Saint-Sacrement, de poser nos yeux sur Jésus-Christ, de poser nos yeux sur son corps eucharistique, ce corps, cette humanité qui a vaincu le tentateur. Et par l'adoration, nous avons un moyen de nous unir profondément au Christ vainqueur du tentateur pour mettre nos pas dans les pas de Jésus et grandir dans la capacité d'aimer jusqu'à accomplir notre vocation. Alors, cela vaut le coup de se donner les moyens, ne serait-ce que pour ce temps de carême, de s'engager pour un temps d'adoration, que ce soit dans la journée, ou peut-être même dans la nuit. Nous ferons l'expérience, et il est bon de partager cette expérience quand nous le vivons, que prendre un temps d'adoration de nuit ne plombe pas notre journée. On en a peur, c'est un peu, j'allais dire, un réflexe naturel, on dit « Oh là là, mais ma journée va être fichue après, comme ça j'ai dû me lever, et je découvre que ma journée en est illuminée et que j'en suis transformé. » Osons accueillir cette grâce que le Seigneur nous donne ici tout particulièrement, parce qu'à chaque fois que nous allons poser notre regard sur le Saint-Sacrement, nous mettons une limite à la puissance du mal. Ou plus exactement, nous ouvrons notre vie à la limite que le Christ lui a posée. Lorsque nous disons à la fin du Notre Père « Délivre-nous du mal », vous ferez attention, dans vos traductions françaises, on a mis une majuscule à « mal » parce que ça désigne le malin, ça désigne le diable. « Délivre-nous du diable ». Ça ne désigne pas le mal en général. Eh bien, le Christ nous donne cela. Il nous donne cette possibilité de mettre dans notre vie, de faire descendre dans notre vie la limite qu'il a imposée au pouvoir du malin. Notre monde a besoin de cela, a besoin qu'une digue soit posée face aux vagues d'assaut, de la mort, du mensonge, et de la haine. Et nous avons ce pouvoir de faire entrer dans notre vie cette limite sainte, cette limite pure, cette limite divine. Et si elle entre dans nos vies, alors elle retentira à l'extérieur parce que nos vies sont unies, nos vies sont ouvertes les uns vers les autres. Seigneur Jésus, toi qui en assumant notre humanité, nous offre un commencement nouveau où le tentateur est vaincu. Donne-nous de poser les yeux sur toi, de saisir la chance de prendre un temps d'adoration pour faire entrer cette limite au mal que tu as imposé. Donne-nous d'être transformés, de devenir ces lumières, ces autres Christ pour le monde, remplis de l'Esprit Saint, remplis de l'Esprit de vie, remplis de l'Esprit d'amour, remplis de l'Esprit d'unité. Amen.